France Culture, grand reportage, Clotilde Dumet.
C'est un rêve pour cette génération qui veut construire le Liban et le reconstruire, loin de toute la corruption.
2020 devrait être un référendum sur Donald Trump.
On souhaite que Taïwan devienne un pays indépendant et qu'on abandonne le nom actuel de République de Chine.
Je vous laisse deviner, Monsieur le Président, ce que ce Parlement va faire. Il va faire du Brexit une réalité.
Quels enjeux internationaux en 2020? C'est la question que nous nous posons ce soir. Pour tenter d'y répondre, nous irons aux États-Unis, en Chine, au Liban, au Royaume-Uni. 2020, ce sera l'année du stop ou encore pour Trump. 2020, Taïwan et Hong Kong, les îles rebelles de Pékin, seront-elles domptées? 2020, la révolution libanaise va-t-elle aboutir? Et puis 2020, ce sera enfin, peut-on peut-être dire, l'année du Brexit. En studio, pour commenter ces thématiques avec moi, Éric Scholl, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la rédaction de l'Express et co-auteur avec Gilles Fontaine du livre « Il est midi à Pékin », édité chez Fayard, livre qui vient de recevoir le prix du livre d'économie 2019. C'est donc un grand reportage itinérant que nous vous proposons ce soir, un magazine d'autant plus spécial qu'il a été préparé, on vous raconte tout, par Tara Schlegel qui a perdu sa voix et à qui je prête donc la mienne auprès de vous ce soir, un magazine réalisé par Emmanuel Faucillon. Direction donc, pour commencer, les États-Unis, où l'année 2020 sera marquée par un calendrier électoral chargé. Voyez donc le 3 février les premiers caucus dans l'Iowa, le mardi 3 mars le fameux Super Tuesday, en juillet la convention démocrate pour désigner celui ou celle qui affrontera Donald Trump, et le 3 novembre 2020 enfin l'élection présidentielle, le renouvellement de la totalité de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Donald Trump est déjà en campagne depuis plusieurs mois, sans pour l'instant connaître le nom de son futur adversaire. La fin de cette année 2019 a été marquée par son impeachment, sa mise en accusation dans l'affaire ukrainienne. En 2020 devrait, selon toute logique, s'ouvrir par son procès en destitution au Sénat, avec la quasi-certitude que Donald Trump sera blanchi par la majorité républicaine. Alors, dans ces circonstances, Trump peut-il être reconduit pour un deuxième mandat? Élément de réflexion avec, à Washington, le correspondant de France Culture, Grégory Phillips.
On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted.
Le 18 décembre dernier, Donald Trump entre encore un peu plus dans l'histoire des États-Unis en devenant le troisième président du pays seulement à être mis en accusation, impeached, pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. C'est l'affaire ukrainienne, ce coup de téléphone passé quelques mois plus tôt à son homologue Zelensky pour lui demander des informations compromettantes sur un rival politique, en l'occurrence Joe Biden. Ce 18 décembre, la speaker démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, est vêtue de noir pour marquer la solennité du moment. Chaque camp, démocrate et républicain, parle pour des raisons opposées d'un jour particulièrement triste pour l'Amérique, qui normalement doit donc ouvrir la voie à un procès en destitution contre Trump, peut-être dès janvier. Mais pour Célia Belin, chercheuse invitée au Brookings Institute, cette péripétie ne devrait pas tellement pesé sur la prochaine présidentielle.
Trump est un phénomène un peu particulier parmi les présidents américains, c'est-à-dire que sa cote de popularité est pratiquement totalement indépendante de l'actualité. Et on le voit particulièrement avec l'impeachment. Ce qui est spectaculaire, c'est que ça n'a eu aucun effet sur sa base électorale, qui va continuer à soutenir Donald Trump. Et à la limite, l'impeachment l'aide, parce que ça va lui permettre d'expliquer qu'il a toujours été, depuis le départ, victime d'une chasse aux sorcières de la part des démocrates. Et donc, ça va juste renforcer le sentiment que le président est assiégé et donc que ses supporters doivent se rallier derrière lui. But ever since Trump won, it proved that I could be president.
Yeah, you can. With today's illegal, unconstitutional and partisan.
Avec cette procédure illégale, inconstitutionnelle et partisane, l'impeachment, les démocrates qui ne font rien, et ils ne font vraiment rien, tout ce qu'ils veulent c'est se concentrer là-dessus, et les démocrates déclarent leur manque de patriotisme, leur dédain pour le peuple américain. Cet impeachment hors la loi partisan est un suicide politique en cours pour les démocrates. Vous avez vu ma cote de popularité?
En revanche, Donald Trump est quasi assuré de ne pas être destitué par le Sénat. C'est un scénario qui est quasi impossible.
Les équilibres politiques font que Donald Trump ne devrait pas être destitué par le Sénat. La seule possibilité que j'imagine à ce stade, c'est s'il y avait vraiment un tout nouveau élément d'accusation. Par exemple, une des personnes qui a travaillé avec lui de manière très proche, comme son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui viendrait enfin témoigner. Mais ça n'est pas arrivé. Et donc, à ce stade, les preuves ne sont pas jugées suffisantes pour les républicains pour le destituer.
And now, please greet tonight's candidates. They are businessman Andrew Yang.
Pour l'heure, il reste encore une quinzaine de candidats à l'investiture démocrate. Et évidemment, une seule ou un seul affrontera Trump le 3 novembre 2020. Dans les sondages de cette fin décembre, Joe Biden, l'ex-vice-président d'Obama, fait toujours figure de favori, talonné par deux autres septuagénaires, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. Pete Buttigieg, le jeune maire de South Bend, Indiana, fait une bonne campagne. Et il est encore trop tôt pour savoir si les millions de dollars déjà dépensés par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, suffiront ou non à faire de lui un candidat sérieux. Mais pour Célia Belin, il faut aller au-delà de ces questions de personnalité et mesurer que le Parti démocrate est aujourd'hui face à un choix de société.
Look what's happening to the American workers. They're being stifled. It has to end.
Alors, se joue derrière beaucoup de réflexions sur l'avenir du Parti démocrate, mais aussi sur la raison pour laquelle les Américains en sont là. C'est-à-dire, pourquoi Donald Trump a-t-il été élu en 2016? Est-ce que c'était une crise du capitalisme? Et du coup, il faut refonder le capitalisme américain en essayant d'apporter des réponses à ces populations qui ont été délaissées par les élites globalisées, si vous voulez, et qui ont besoin d'une forme de populisme de gauche auquel Bernie Sanders ou Elizabeth Warren répondent. Est-ce qu'au contraire, il faut envisager 2016 comme étant une crise de la démocratie ou en fait ce qui n'a fonctionne pas, c'est que les Américains sont trop divisés et que Donald Trump était un personnage clivant. Et donc, à ce moment-là, il faut plutôt réconcilier les Américains. Et ça, c'est Pete Buttigieg qui va parler beaucoup de l'Amérique des petites villes, de l'Amérique de l'intérieur et qui parle aussi de la religion ou encore des forces armées comme des éléments unifiants. Mais il y a aussi derrière une vision beaucoup plus simple qui est celle de Joe Biden, qui est celle d'un retour à la normale. Joe Biden dit que Donald Trump était une aberration dans l'histoire américaine, que finalement tout ça est une grande erreur. Et ce qu'il faut, c'est pour ne pas changer le caractère de l'Amérique, c'est revenir à des choses plus simples que lui incarne, une espèce de centrisme modéré.
Nous voici dans le bureau d'Anthony Blinken.
Je ne vais pas vous prendre trop de temps. On peut s'asseoir l'un à côté de l'autre, c'est parfait.
Il fut le principal conseiller en politique étrangère de Barack Obama, numéro 2 du département d'État. Pour cette campagne 2020, cet Obama boy, comme on le présente souvent, a choisi de manière assez logique Biden, le plus à même, dit-il, de rassembler l'électorat démocrate, puis les Américains.
Nous sommes dans un moment où le prochain président des États-Unis aura un travail presque inimaginable à faire, à la fois chez nous et dans le monde. Chez nous, parce que pendant maintenant presque 3 ans, le président actuel passe tous ses jours à attaquer nos institutions et à créer des divisions profondes accentuer des divisions entre Américains. Et puis dans le monde, hélas, un président qui semble préférer passer son temps avec des autocrates et des dictateurs que ses homologues démocrates. Il n'y aura pas une minute à perdre pour défaire les dommages qui ont été faits et pour remettre les États-Unis sur une route plus positive, à la fois chez nous et à la fois dans le monde. Et pour moi, Biden n'aura pas la nécessité d'apprendre en faisant. Il sait déjà.
It is time for a wealth tax in America. I've
Mais face à la machine Trump, face à un parti républicain désormais uni comme un seul homme derrière le président sortant, les démocrates n'ont-ils pas intérêt à faire un choix plus radical? Elizabeth Warren, par exemple, ou Bernie Sanders, qui chacun de leur côté plaide pour un impôt sur la fortune ou une couverture santé universelle. L'économiste français Gabriel Zucman enseigne à l'université de Berkeley en Californie. Il se trouve que ces deux candidats ont lu ses travaux sur la réduction des inégalités et s'en sont inspirés pour leur programme. Or, cette question s'est peu à peu imposée dans la campagne des primaires démocrates. Gabriel Zucman.
Il y a cette tendance à l'explosion des inégalités depuis les années 80, et c'est pas extrêmement surprenant qu'à un moment il y ait une réponse politique et une offre de solutions, de réformes ambitieuses qui soient proposées par un certain nombre de candidats. Quand on regarde l'électorat américain, quand on demande aux électeurs, est-ce que vous pensez que les riches payent suffisamment d'impôts? Grande majorité dit non. Et c'est pas nouveau, c'est au moins depuis les années 90. Quand on leur demande dans les enquêtes d'opinion, est-ce que vous pensez que les multinationales payent suffisamment d'impôts? Même réponse. Quand on leur demande, qu'est-ce que vous pensez d'un impôt sur la fortune? Un taux de 2% au-delà de 50 millions de dollars, ce qui est la proposition d'Elizabeth Warren, 70% des Américains répondent qu'ils sont en faveur d'un tel impôt. Non seulement une grande majorité de démocrates, ce qui est peut-être pas extrêmement surprenant, mais aussi une majorité d'électeurs républicains. Donc cette idée que les États-Unis ont besoin d'un système fiscal plus progressif, elle est très fortement ancrée dans la population. Il y a une demande très forte pour davantage de progressivité et elle aurait fini par se matérialiser politiquement que ces travaux aient été menés par moi ou par d'autres.
En attendant, Trump, lui, est déjà en campagne, avec avant les fêtes un rythme de 1 à 2 meetings par semaine. Ses équipes ont déjà amassé plus de 160 millions de dollars. Il est le champion incontesté des levées de fonds. Et dans les rassemblements, MAGA pour Make America Great Again, le slogan qu'on entend le plus souvent est celui-ci. 4 ans de plus. Célia Belin, chercheuse invitée à la Brookings.
2020 devrait être un référendum sur Donald Trump. Mais comme Donald Trump, tout le monde a un avis sur Donald Trump et que sa cote de popularité n'évolue pas, cela pourrait très bien se transformer en référendum sur le candidat démocrate. Et là, c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus simple pour Donald Trump de présenter le candidat démocrate, surtout si c'est un peu un progressiste ambitieux, comme un radical, comme un socialiste, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment américain, comme quelqu'un qui fera du mal à l'Amérique, et donc se poser, lui, en personnalité raisonnable qu'il suffit de réélire. Les experts estiment à ce jour que Donald Trump ne peut pas gagner le vote populaire. Donc sa seule manière pour être réélu, c'est de gagner la carte électorale exactement comme il l'a fait en 2016.
En 2016, il avait suffi à Donald Trump de s'imposer dans quelques États clés, comme le Wisconsin, le Michigan ou la Pennsylvanie, pour arriver au pouvoir. Ces trois États plutôt ouvriers et ruraux qui avaient basculé du bleu au rouge et dont le vote en novembre 2020 risque de peser encore très lourd dans le choix de celle ou celui qui s'installera ou restera à la maison.
C'était donc Grégory Phillips à Washington avec Célia Belin, dont le livre à paraître en février prochain chez Fayard s'intitule « Des démocrates en Amérique, les alternatives face à Trump ». Alors Eric Scholl, je me tourne vers vous. On l'a entendu, dans les meetings de Trump, on crie « Four Warriors », 4 ans de plus. On entend aussi les observateurs qui disent que l'actuel locataire de la Maison Blanche ne gagnera pas l'électorat populaire. Pourtant, ça serait quand même sur l'économie que Trump peut compter.
Vous allez vous rappeler, en 1992, pendant la campagne, c'était Clinton, il y avait ce fameux slogan lancé par un conseiller Clinton, « It's the economy stupid ». Et c'était ça, c'est que l'économie va jouer une nouvelle fois dans cette prochaine campagne un rôle clé. Et pour Donald Trump, le point le plus important, c'est d'essayer de maintenir la croissance pour prouver qu'il a réussi, qu'il a un excellent bilan économique. Et c'est vrai que son bilan économique
sont bons, oui.
est excellent. On prend la croissance qui s'est maintenue, on prend le chômage qui est à son plus bas niveau depuis toujours. Les États-Unis viennent de connaître 10 ans d'un cycle de croissance. C'est historique. Dans toute l'histoire des États-Unis, on n'avait jamais connu un cycle aussi long. Et c'est bien pour ça que depuis plusieurs mois, tous les économistes, tous les experts s'interrogent, la récession va arriver. Et on était persuadés qu'en 2020, il y aurait cette récession. Et on s'aperçoit en cette fin d'année qu'en réalité, cette récession va sans doute arriver, mais peut-être qu'à la fin 2020. Et ça va être très important parce que ça va se jouer, notamment, comme l'expliquait d'ailleurs très bien la politologue qu'on entendait un instant, dans certains états clés, c'est des états industriels. L'industrie n'est pas dans une grande forme en ce moment aux États-Unis. Il faut qu'elle puisse continuer, si vous voulez, à maintenir son rythme. Il faut que la croissance puisse se tenir entre 1,5 et 2%. Et oui, dans ce cas-là, effectivement, dans ces États, l'électorat qui avait voté Donald Trump en 2016 pourrait revenir vers lui et revoter pour lui. C'est ça tout le pari que fait Donald Trump, c'est se dire qu'il aura l'économie avec lui en 2020. Pour le moment, il a plutôt réussi cette partie-là, ce pari-là, même si ça peut coûter très cher. Il y a eu des réformes sur le plan budgétaire. Depuis 2018, il a réouvert les vannes budgétaires d'une façon assez forte. Enfin, il va aller chercher cette victoire, notamment avec de l'argent public.
Et rapidement, l'économie, c'est dans les relations internationales, les bras de fer avec les différentes capitales sur les droits de douane et tout ça. Et les USA qui ont voté, vous me le disiez avant l'antenne, un projet de budget qui met en colère les Chinois la semaine dernière.
Si vous voulez, ça fait maintenant 18 mois qu'il y a cette guerre commerciale entre Pékin et Washington. On est arrivé, pour Donald Trump, c'est très important d'essayer de montrer d'abord pour le plan politique qu'il est capable d'arriver à un accord, faire un deal, ça fait partie de, c'est dans sa nature, mais aussi essayer de rassurer, parce que les industriels américains étaient un peu inquiets par cette, les agriculteurs américains aussi, par cette guerre commerciale. Donc là, on devrait avoir en tout début d'année un premier projet, mais ce n'est qu'à la première phase d'accord entre les deux pays. Simplement, on s'aperçoit que ce projet, il reste rien n'est réglé sur le fond. Et on l'a vu effectivement avec ce projet de budget de défense américain qui continue, lui, à être très restrictif sur les produits chinois, notamment les trains, les matériels ferroviaires chinois, mais aussi dans le domaine de la voiture électrique. Il s'agit d'interdire ou de freiner au maximum l'argent public américain qui pourrait s'investir dans ces entreprises chinoises. De même, Huawei, cette fameuse équipementier télécom chinois, est lui aussi encore visé, ciblé par ce projet de budget américain. Donc, les choses sont très loin d'être réglées. Même s'il y a sur la table un projet d'accord, on s'aperçoit bien qu'entre les deux villes, sur le fond, les sujets restent le différent, le fossé est très large. Parce que, au fond, c'est ce qui va jouer, c'est la souveraineté économique, c'est la bataille économique entre deux grandes puissances.
Alors, la Chine, eh bien, c'est notre deuxième destination ce soir. 2019 a été marqué par la révolte hongkongaise, la répression contre les Ouïghours ou encore la généralisation, la cybersurveillance. Les enjeux pour 2020 en Chine, nous les passons en revue avec notre correspondante à Pékin, Dominique André.
En ce début d'année 2020, Taïwan retiendra l'attention de beaucoup de monde, aussi bien à Pékin que dans les capitales occidentales. Si l'île rebelle au statut assez flou est dotée d'un gouvernement et d'un parlement, Taïwan en fait est reconnu aujourd'hui seulement par 15 pays dans le monde, peu influents, dont le Vatican, le dernier État en Europe à avoir des relations diplomatiques avec Taipei. Taïwan organisera des élections présidentielles et législatives le 11 janvier. C'est toujours un moment sensible pour la petite démocratie taïwanaise que le gouvernement communiste chinois considère comme une partie de son territoire. La présidente pro-démocratie Tsai Ing-wen, bête noire du régime de Pékin, brigue un deuxième mandat. Elle est portée par le mouvement de contestation de Hong Kong qui influence le choix des Taïwanais pour un renforcement de leur démocratie. Les sondages la donnent gagnante largement dans une île où la liberté d'expression et l'identité locale sont de plus en plus forte, c'est normal de se sentir taïwanais, confie ce couple de Taipei.
Nous souhaitons l'indépendance de Taïwan. Nous espérons que plus de gens encore se rassemblent pour montrer à la Chine que nous pouvons être nombreux à nous unir sans nous opposer à eux et ne pas les laisser nous annexer. On ne veut pas que la Chine pense qu'on va se laisser faire.
On veut être un pays normal. Maintenant, notre situation n'est pas normale. Les Nations Unies ne veulent pas de nous. On ne peut même pas rentrer dans le bâtiment de l'ONU avec un passeport taïwanais. On souhaite que Taïwan devienne un pays indépendant et qu'on abandonne le nom actuel de République de Chine.
Gloire à Hong Kong, l'hymne célèbre des manifestants pro-démocratie accompagne la contestation contre Carrie Lam depuis plus de 7 mois. Les Hongkongais ont été galvanisés par le raz-de-marée démocratique des dernières élections locales de novembre. Ils ont maintenant en ligne de mire les élections législatives de l'automne 2020. La détermination est forte, promet l'une des figures de la contestation hongkongaise, le jeune Joshua Wong.
Il est temps pour Carrie Lam d'être comptable et de stopper les violences policières en mettant en place une commission d'enquête indépendante, qu'il n'y ait plus de répression lors des manifestations. Le résultat de ces élections dans les districts montre que nous sommes solidaires et formons un bloc. L'étape suivante après cette bataille, c'est de mettre plus de pression dans la rue pour que le monde entier comprenne que le peuple de Hong Kong ne s'arrêtera pas avant le jour où il obtiendra le droit de vivre en démocratie.
Carrie Lam a passé 4 jours à Pékin au mois de décembre. Elle a été reçue par Xi Jinping pour faire le point sur la situation politique. Un remaniement ministériel est dans l'air. C'est une hypothèse que la chef de l'exécutif local ne dément plus. Un autre enjeu en 2020 pour Xi Jinping, c'est le Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine. Le président chinois est critiqué pour sa politique de répression qu'il justifie par le risque terroriste islamiste et les attentats attribués dans le passé à des séparatistes ouïghours. Les pressions internationales sont de plus en plus fortes pour que la répression cesse dans cette province musulmane turcophone. Le Congrès mondial des Ouïghours, une organisation internationale, maintient la pression. L'un de ses directeurs, Ilshat Hassan.
Nous recevons toujours des informations en provenance de l'intérieur. Des Ouïghours nous font passer secrètement des informations sur leur situation. Le gouvernement chinois a envoyé des membres du gouvernement local et des officiels dans les familles ouïghours. Et ils partagent leur maison, leur repas. Même dans leur propre maison, ils n'ont plus d'espace privé. Ils apportent avec eux du porc, du vin, de la bière, des alcools, ce qui est interdit par la religion musulmane. Et ils obligent les Ouïghours à les consommer à table, s'ils ont la chance de ne pas aller dans un camp ou d'être en prison. En réalité, leur maison est devenue une prison où tous les faits et gestes sont enregistrés 24 heures sur 24.
Fin 2019, une trêve commerciale a été signée après plus d'un an et demi d'une guerre commerciale féroce entre la Chine et les États-Unis. C'est une percée majeure sur le plan commercial qui soulage les marchés et les entreprises. Les exportations américaines vont doubler en 2020 grâce à cet accord partiel, affirme la Maison-Blanche. Les responsables chinois sont beaucoup plus prudents. Le différend commercial n'a pas été réglé complètement. L'enjeu est au-delà des relations commerciales, car la Chine veut devenir une puissance technologique avec l'arrivée notamment de la 5G, analyse le professeur Yuan Ding de l'école de commerce international CIBS à Shanghai.
Sur le code de recherche et développement, sur les composants fondamentaux dans le secteur électronique, tout ça, on a bien montré que la Chine a encore beaucoup de progrès à faire et c'était un peu caché volontairement par des fabricants chinois pour montrer qu'ils sont déjà sur le premier plan, mais en réalité ils sont sur le premier plan dans le produit fini, mais dans les composants clés de leurs produits fabriqués, il y a quand même beaucoup d'originalité, des idées, tout ça, ce sont des idées étrangères.
Que pensez-vous des craintes des Occidentaux et en particulier des Américains sur la 5G de Huawei ?
Dans ce problème, pour moi, c'est 50-50, c'est-à-dire la moitié, c'est un peu lié avec la montée en puissance de Chine et la crainte des Américains pour stopper un peu la Chine. Mais bien sûr, ils ont pris Huawei comme le symbole à taper. Ils sont malheureux de se retrouver dans cette situation-là. La deuxième moitié, je pense, Huawei n'a pas bien joué le jeu non plus. C'est-à-dire qu'en tant qu'une société de cette envergure, ils devraient être plus transparents, ils devraient diminuer beaucoup leur expression guerrière dans leur communication. Mais ça, c'est un peu leur problème, leur style de leadership. Dans le monde actuel, on dit toujours, on voudrait pointer le drapeaux rouges sur chaque colline, tout ça, ça marche plus.
2020 sera une année sensible pour le Parti communiste chinois qui s'est fixé comme objectif de doubler le produit intérieur brut au cours de la décennie. La Chine table sur une croissance économique moins forte autour de 6% l'année prochaine. Pour éviter un ralentissement plus fort de la croissance, elle augmentera les dépenses publiques d'infrastructures. L'objectif sera officialisé lors de la session parlementaire annuelle en mars prochain. Limiter le chômage et maintenir la stabilité sociale du pays sont prioritaires pour le régime communiste chinois. Des bruits de bottes sur la place Tiananmen, c'était le 1er octobre dernier lors des 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Xi Jinping a passé en revue les troupes lors d'un gigantesque défilé militaire. Après une année d'omniprésence via la télévision publique et la presse officielle qui n'ont cessé de relayer ses discours et exploits de l'année. En 2020, le président chinois cherchera encore à asseoir son autorité. Des critiques circulent dans différents milieux économiques, politiques, dans les cercles intellectuels, mais aussi dans les milieux populaires en Chine. Voici comment l'historien Zhang Lifan, l'une des rares voix critiques du pays, voit l'avenir.
Je pense que tout le monde regarde comment ce pouvoir politique communiste peut continuer. Est-ce que le chef d'aujourd'hui va être le dernier président de cette lignée? Je ne suis pas si optimiste quant à l'avenir, car quand un énorme et puissant pouvoir tombe soudainement, cela peut provoquer aussi une catastrophe sociale. Si la société est livrée à elle-même, sans gouvernement, que va-t-il se passer? Toutes les classes sociales ne sont pas prêtes pour un nouvel ordre. Le risque est de se retrouver face à la loi de la jungle. Je pense que le risque du pouvoir actuel est énorme. Mais s'il chute, la crise de la société pourra être très grande aussi. Il existe un double danger.
Un domaine dans lequel le gouvernement chinois a des relations plus apaisées à l'international, c'est sur la question du changement climatique. La Chine accueillera en 2020 la COP15 sur la biodiversité. Il y a beaucoup à faire dans le pays qui a été mis à rude épreuve lors des années de décollage industriel et économique et qui parie de nouveau sur le charbon pour faire tourner ses usines. Le gouvernement chinois, qui a le sens de la formule, veut mettre en place une civilisation écologique. Ces éléments de langage reviennent souvent dans le discours du président chinois Xi Jinping. Mais a-t-il la fibre écologique? La réponse de Xavier Ruffray de la société française Biotope qui travaille sur la restauration des écosystèmes en Chine.
Il y a une évolution, c'est clair. Déjà, il y a une évolution dans les discours, c'est-à-dire que le président chinois parle souvent de protection de la nature, avec sa loi sur les parcs nationaux qui est en cours. Il y a eu toute une restructuration de ministères chargés de l'environnement. Maintenant, il y a deux ministères chargés de l'environnement. On parle beaucoup en Chine d'éco-civilisation, grosso modo le concept de développement durable qu'on connaît en Europe. C'est inscrit dans le discours politique de plus en plus. Et donc, je pense que ça va s'amplifier, oui, oui. C'est vraiment le tout début de ce qu'on a connu, nous, en Europe, vraiment dans les années 90. Donc, il y a quand même 20 ans de retard. Et il était temps.
En attendant, 2020 marquera l'entrée de la Chine dans l'année du rat qui commencera le 25 janvier, premier jour du nouvel an chinois. Le rat annoncerait une année de renouveau et les plus optimistes considèrent que tous les espoirs sont donc permis.
Voilà pour cette synthèse signée Dominique André à Pékin. Alors Eric Scholl, vous venez de coécrire un livre avec Gilles Fontaine sur l'influence de la Chine dans le monde. Pour introduire un petit peu notre prochaine thématique qui va nous mener au Proche-Orient, qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence de Pékin sur cette zone du Proche-Orient, justement?
Historiquement, on peut dire que la Chine était relativement absente de cette région. Simplement, au cours des dernières années, elle a largement rattrapé son retard. D'abord, elle s'est aperçue que les États-Unis de Donald Trump sont en train de se retirer. Leur influence est en train de faiblir dans cette région. Et le régime chinois est très pragmatique et tout. Il a commencé à tisser sa toile économique, diplomatique, militaire, pas plus tard qu'aujourd'hui. On voit, il y a actuellement des essais avec la Russie, avec l'Iran, des essais militaires dans l'océan Indien qui vont durer pendant 3 jours. Un peu partout dans la région, il y a des projets d'investissement très importants, aidés largement par la Chine, puisque la Chine en fait passer ses routes de la soie maintenant par l'ensemble du Moyen-Orient. D'ailleurs, le Moyen-Orient, maintenant dans le langage officiel chinois, on appelle ça l'Asie occidentale. C'est-à-dire à quel point c'est, dire, oui. C'est une volonté de d'être très présent dans l'ensemble de la région et notamment alors la difficulté c'est que la Chine veut être amie avec tout le monde. Elle veut être très proche de l'Iran mais elle est en même temps très proche de l'Arabie Saoudite. Et il y a un moment ça va être plus compliqué à partir du moment où on va sortir juste du domaine économique, on va arriver dans le domaine politique, géopolitique, ça va commencer à les tensions vont commencer à s'exercer, il va falloir choisir en fait en quelque sorte ses alliés dans la région.
Alors, comme annoncé, un détour maintenant par le Liban. Fin d'une année 2019 marquée par une révolte populaire sans précédent depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans. Une révolte qui se poursuit et qui pèsera sur l'année 2020. Pour en parler, on retrouve l'envoyé spécial de France Culture au Liban, Aurélien Colli. Bonjour.
Bonjour.
Alors, au départ de cette contestation, Aurélien, il y a une nouvelle taxe que le gouvernement libanais a voulu instaurer en octobre, la taxe dite WhatsApp, une taxe sur toutes les communications opérées par cette application très utilisée.
Oui, pour renflouer les caisses d'un État libanais à sec avec une dette publique qui atteint aujourd'hui 150% du PIB, sauf que la mesure a déclenché une vague de colère dans tout le pays avec manifestations, coupures d'axes routiers, occupations de places publiques et grands rassemblements pacifiques. Jusqu'à 1 million de Libanais dans la rue en octobre, près d'un quart de la population. Une mobilisation spontanée et inédite aussi par son caractère multiconfessionnel. Dans un Liban qui est encore fracturé par les communautés 30 ans après la guerre civile, eh bien toutes les religions, chiites, sunnites, chrétiens, druzes, étaient rassemblées dans la rue. Tous les milieux sociaux également et toutes les générations, avec quand même une forte présence des jeunes, comme ces deux étudiantes que j'avais rencontrées fin octobre.
C'est un rêve pour cette génération qui veut construire le Liban et le reconstruire, loin de toute la corruption. Nous, notre génération, ce n'est pas une génération de guerre, mais une génération qui vise à effacer ces traces de guerre, qu'on puisse nous-mêmes nous exprimer pour une fois.
On n'a rien vu de positif venant de ces visages. Et c'est ce qu'on veut changer, parce que pour une fois, on lève le même drapeau. Pour une fois, on demande les mêmes choses. Et pour une fois, on est unis. Des sunnites, des chiites, des druzes, des chrétiens, des athées. On parle tous de même demande, d'essayer de reprendre le pouvoir. Et si on continue comme ça, je pense qu'on peut y arriver.
Alors Aurélien, cette taxe WhatsApp a été l'étincelle, mais la colère qui a généré cette révolte va, elle, bien au-delà.
Oui, en fait, les Libanais en ont ras-le-bol depuis longtemps déjà de l'État complètement défaillant, incapable de leur assurer les services minimums, l'eau courante, l'électricité 24 heures sur 24, des transports publics, un système de santé, une éducation ou une justice qui fonctionne correctement. Ras-le-bol aussi d'une classe politique qu'ils jugent corrompue et clientéliste, une classe politique qui se partage le pouvoir depuis 30 ans, avec des chefs de guerre devenus chefs de partis politiques, plus préoccupés par le partage du gâteau. D'un côté, il y a donc des Libanais qui ne peuvent pas compter sur l'État, qui galèrent dans une économie en crise, et de l'autre, une classe politique qui s'enrichit avec une micro-élite. Un chiffre résume ces inégalités, 3700 Libanais captent autant de richesses que la moitié de la population. Écoutez Habib, il est sunnite, père de famille et au chômage.
Et les politiciens mangent nos droits, c'est très grave. Surtout cette année, l'économie, les opportunités du travail, chaque année diminue. Les personnes libanaises vont dehors, dans les pays dehors, en France, en Arabie Saoudite, au Qatar, Dubaï, pour travailler. Pourquoi ? On veut travailler dans notre pays, dans notre culture. Cette révolution a fait beaucoup de positives conséquences. Surtout que les politiciens maintenant font peur de nous. Alors, c'est bien de prendre notre droit à tous les Libanais pour dire à cette politique on veut le changement, le grand changement. On est ici, on va rester ici. Toutes religions sont une personne contre cette mauvaise politique.
On entend bien là le mécontentement, Aurélien, mais pourquoi il s'est réveillé maintenant ?
Eh bien parce que la bulle libanaise a éclaté en 2019. Depuis des années, l'État libanais s'endette. Cette dette publique est détenue par les banques libanaises qui sont alimentées elles-mêmes par les dépôts des particuliers et les transferts de capitaux de la diaspora. Depuis 2018, ces transferts se sont taris à cause des querelles politiques internes. Et puis l'aide internationale qui renflouait le Liban jusqu'à présent est désormais conditionnée à des réformes de fonds. À la crise économique s'est donc ajoutée une crise de la dette avec des banques libanaises qui limitent limite drastiquement depuis quelques mois les retraits, les transferts, notamment en dollars, ce qui a grippé encore plus une économie qui dépend à 90% des importations. Écoutez Sybille Risk, elle est analyste pour une ONG libanaise.
Le symptôme de cette crise est le décrochage de la livre libanaise. On a aujourd'hui un marché parallèle sur lequel la livre a perdu 20 à 25%, voire 30% de sa valeur. Or, une dévaluation sauvage qui en supporte le coût en premier, c'est l'ensemble de la population. Parce que l'essentiel de nos besoins sont importés. Aujourd'hui, on fait face à un risque de pénurie de médicaments, de matériaux pour les hôpitaux. Les supermarchés sont déjà à court de beaucoup de produits. Notre électricité est entièrement tributaire d'importation de combustible de l'extérieur. Enfin, tout ce qui fait notre vie quotidienne en tant que Libanais vient de l'étranger ou presque. Malheureusement, il n'y a pas de réponse organisée à la crise pour l'instant. On est même face à un déni des pouvoirs en place. Ce comportement est irresponsable à ce stade.
Alors Aurélien, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un déni des responsables politiques face à cette crise économique et financière ?
Mais en tout cas, un jeu très dangereux pour un Liban que certains disent aujourd'hui dans une situation pire que la Grèce il y a quelques années. Depuis la fin octobre, depuis que les manifestants ont obtenu la démission du gouvernement de Saad Hariri, ils réclament un renouvellement complet de la classe politique et surtout la nomination d'un gouvernement d'experts apolitiques sans lien avec les partis traditionnels. Seulement quand la rue libanaise réclame la fin du système, le système lui évidemment ne lâche rien. Pendant plus de 6 semaines, novembre, mi-décembre, grosso modo, le Liban n'a donc pas eu de gouvernement. Tractations, gesticulations, démonstrations de force entre chefs de clan, occupés surtout à reprendre le contrôle de leur communauté, à tirer leur épingle du jeu ou à se neutraliser entre eux. Depuis une dizaine de jours, un premier ministre a enfin été nommé. Il est sunnite, conformément à la règle au Liban, qui veut que le président soit chrétien, que le chef du gouvernement soit sunnite et que le président du parlement soit chiite. Mais rien n'est réglé pour autant. D'abord, il faut qu'il compose son équipe. Ensuite, il n'a pas le soutien de sa propre communauté. Et enfin, il n'est pas considéré comme indépendant par la contestation populaire, qui a certes baissé en intensité, mais qui perdure et qui devrait même peut-être se réintensifier, selon Charbel Nahas, ancien ministre qui dénonce depuis plusieurs années les dérives de la classe politique et aujourd'hui la fin tout simplement du système confessionnel libanais.
La course est entre, d'une part, une réalité qui continue de sombrer et qui de plus en plus laisse présager non seulement des problèmes économiques, sociaux, mais aussi des problèmes sécuritaires, et d'autre part, un système politique qui ne fonctionne plus comme système, mais dont les éléments ou les composants continuent à contrôler différentes parties de la population et différentes parties des appareils d'État. Voilà, alors les manifestations ne vont pas s'arrêter parce que les problèmes éclatent de manière continuelle. Le risque, c'est que la prise de conscience pouvant amener à une transition vers un système politique fonctionnel n'ait pas lieu avant un effondrement sécuritaire grave.
Voilà, alors heureusement, le Liban n'en est pas encore là aujourd'hui, mais en tout cas, les ingrédients pour une année 2020 très délicate sont réunis entre crise économique, crise sociale et crise politique.
Merci Aurélien Colli. Au Liban, on entend bien donc la colère des Libanais, Eric Scholl. Le Liban est évidemment loin d'être le seul point chaud de la région. Il y a la Syrie par exemple. À quoi pourrait ressembler la Syrie en 2020, Eric Scholl ?
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles à attendre parce que on a vu en fin 2019 la seule... Bonne nouvelle de 2019, finalement, ça a été la mort d'al-Baghdadi, celui qui dirigeait l'État islamique. Mais en réalité, la guerre, elle se poursuit, notamment en ce moment même, dans la région d'Idlib, au nord-est du pays. Et on voit les frappes des avions par l'aviation russe, suivies par l'armée syrienne qui essaye de prendre cette province rebelle et où on trouve aussi de nombreux djihadistes. Qui est en train de déclencher un nouveau flux de réfugiés. La Turquie a déjà prévenu qu'elle n'en voulait pas de ces réfugiés, qu'elle a été déjà submergée par ses propres réfugiés. Donc on voit que le sort de la Syrie, Bachar el-Assad a certes gagné la guerre, mais néanmoins rien n'est encore réglé, loin de là. On est très loin d'un projet, d'une constitution, même de la question de la reconstruction, puisque au fond ni la Russie ni l'Iran, qui sont les alliés de la Syrie, n'ont les moyens, n'ont même l'envie de reconstruire la Syrie. Donc peut-être que l'Europe et les États-Unis pourraient le faire, mais elles poseront évidemment des conditions politiques. Or, pour le moment, malheureusement, le camp occidental ainsi que l'ONU ont été aux abonnés absents de cette crise en Syrie. On l'a encore vu il y a quelques jours avec cette décision de l'ONU de poser vote. Il y a eu un vote au Conseil de sécurité la semaine dernière et on a vu finalement la Russie une fois de plus et la Chine refuser une prolongation de l'aide humanitaire aux 4 millions de réfugiés syriens. On est dans une situation de blocage et d'un cynisme incroyable, notamment des grandes puissances, je pense notamment à la Russie.
Et alors au chapitre des grandes révoltes populaires comme celle que vient de nous raconter Aurélien Colli au Liban, il y a bien sûr le soulèvement aussi des Algériens. On a bien l'impression que malgré l'élection du nouveau président, M. Tebboune, l'année 2020 va se révéler là aussi pleine d'incertitudes.
Si vous voulez, ce grand mouvement populaire qu'on a vu naître au mois de février dernier, qui était à l'époque pour empêcher un nouveau mandat de Bouteflika, il se poursuit et l'élection a eu lieu et donc Tebboune a pris, effectivement, est devenu le nouveau président de la République, mais il va avoir un problème de légitimité, il y a une faible participation et la deuxième chose qui vient d'arriver, les événements qui viennent de se produire tout récemment, eh bien c'est évidemment la mort du général Salah qui on le sait était de fait le vrai patron de l'Algérie. Donc
fort,
il y a un remplaçant, peut-être intérimaire, on ne sait pas, un nouveau chef d'état-major. On va voir si l'armée continue. Pour le moment, tout ce mouvement populaire a été certes surveillé de près par l'armée, mais on peut dire qu'il a été tout ça a été fait dans un climat relativement pacifique. Ça va être le grand enjeu en 2020. De savoir comment le nouveau pouvoir, qui a un problème de légitimité, va s'accommoder, va répondre aussi aux demandes de ce mouvement. Ces demandes, elles sont très vastes. Elles concernent l'économie, bien sûr, mais elles concernent la lutte contre la corruption. Elles concernent évidemment la démocratie, c'est-à-dire la façon dont le peuple algérien peut faire entendre sa voix. C'est toutes les questions qui vont se poser à ce grand pays qu'est l'Algérie, sachant que à côté, dans la région, on a quand même beaucoup d'incertitudes, ne serait-ce qu'en Libye. Le conflit en Libye est en train de s'internationaliser puisqu'on est en train de voir les Turcs prendre part à ce conflit et peut-être même tout début janvier on va voir des militaires turcs arriver en Libye d'un côté, de l'autre les Égyptiens eux aussi sont en train d'interférer dans ce conflit. On risque de voir le conflit libyen prendre une dimension internationale qui peut être très grave et si vous voulez si on continue
vers le sud, au Sahel.
On l'a vu encore tout récemment. Même encore cette semaine, dans ce conflit du Sahel qui dure maintenant depuis 5 ou 6 ans. L'opération Barkhane a commencé en 2014 et en fait, pour le moment, rien n'est arrangé. Bien au contraire, on voit ce conflit s'étendre. Je pense au Burkina Faso où on a eu cette semaine, on a eu 42 morts dans un attentat. Le Burkina Faso est en train de sombrer en ce moment, fait partie de ces pays qui sont aux prises avec les différentes ligues islamistes. On voit que la France essaye de jouer, de pacifier, essaye de jouer, de tenter d'arranger cette situation. Il va y avoir les principaux dirigeants du G5, c'est-à-dire des 5 pays du Sahel, qui seront présents en France à l'Élysée tout début janvier.
Ouais, 13,
mais
oui.
En réalité, pour le moment, c'est assez compliqué parce que la situation, loin d'être même tenue, est en train malheureusement de se détériorer.
Alors, dernière étape de ce petit tour du monde, l'Europe, plus particulièrement l'Union européenne, puisque dans un mois, ce sera le Brexit. Normalement, il y a déjà eu tellement de rebondissements dans ce dossier que les certitudes ne sont pas de mise, mais normalement donc, le Royaume-Uni, avec Boris Johnson à sa tête, va quitter l'Union européenne. Marina Daras est notre correspondante à Londres. Elle est interrogée sur ce dossier par Tara Schlegel.
Pour bien comprendre donc ce qui va advenir l'an prochain au moment du Brexit, eh bien il faut qu'on remonte un peu en arrière, Marina, précisément au mois de juillet 2019.
Oui, c'est bien ça. Il est élu haut la main, mais hérite d'un parti et d'un parlement extrêmement bancal. Le Brexit ayant créé d'énormes divisions au sein de la société, il a également divisé le parlement et même le parti conservateur. Alors face aux frondeurs de son parti qui s'opposent à un Brexit dur et à sa très faible majorité parlementaire, Boris Johnson échoue plusieurs fois à faire accepter son accord de sortie de l'UE, fraîchement négocié avec les instances européennes. Il décide donc, en septembre, à la surprise générale, de suspendre le Parlement britannique pour 5 semaines. Le Parlement est donc stoppé dans sa course, mais le 24 septembre, la Cour suprême juge cette prorogation illégale et le Parlement rouvre ses portes le lendemain. Malgré cette décision historique, qui est une sorte de gifle pour le Premier ministre, il persiste et signe en annonçant la tenue d'élections législatives.
Alors évidemment, ces élections sont un pari, Marina, on l'imagine bien, en plein blocage politique. Ce sont aussi les troisièmes législatives en moins de 5 ans pour les Britanniques. Quel était l'objectif au moment où il a appelé à ces élections de Boris Johnson ?
Alors son but était tout simplement de retrouver une majorité parlementaire pour pouvoir passer toutes les législations qu'il souhaite. Pari réussi pour Boris Johnson qui remporte 365 sièges en tout, soit une majorité de 80 sièges. Il s'agit de la plus grande victoire pour les conservateurs depuis la victoire électorale de Margaret Thatcher en 1987. Boris Johnson n'en est pas peu fier et je vous laisse l'écouter.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce Parlement constitue une amélioration considérable par rapport au précédent. En effet, Monsieur le Président, c'est le meilleur Parlement que ce pays ait jamais produit, parce que ce Parlement ne va pas gaspiller le temps de sa nation dans les querelles, les divisions et les retards. Ce nouveau Parlement démocratique, ce Parlement du peuple, va faire quelque chose. Je vous laisse deviner, Monsieur le Président, ce que ce Parlement va faire. Il va faire du Brexit une réalité. Et nous allons être en mesure de respecter les priorités du peuple britannique.
Une majorité extraordinaire donc pour Boris Johnson qui peut aller alors de l'avant. Il a pu se permettre de faire repasser son accord de sortie devant la Chambre des communes avant la trêve hivernale parlementaire. Accord qui, cette fois-ci, a été accepté sur principe par les députés. Boris Johnson peut donc se projeter vers 2020 avec un petit peu plus de confiance.
Alors justement, grande question Marina, que va-t-il se passer en 2020? Il y a, j'imagine, un certain nombre d'échéances à respecter pour le Premier ministre britannique, à commencer par l'adoption formelle du Brexit, puisque le vote dont vous venez de parler n'était qu'un vote de principe.
Alors d'un point de vue politique, Boris Johnson sera immédiatement confronté à l'échéance du 31 janvier, qui est la date prévue pour une sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette échéance, négociée et proposée par l'UE, a déjà été reportée 3 fois, puisque aucun Premier ministre ne parvenait à faire passer un accord de sortie, ne serait-ce qu'en principe. Cette échéance avait donc été repoussée. Boris Johnson avait pourtant promis de respecter celle du 31 octobre dernier, en disant, de manière très imagée, qu'il préférerait mourir dans un fossé plutôt que de repousser l'échéance. Bon, malheureusement pour lui, il a été forcé de demander cette extension, mais autant dire que cette fois-ci, Boris Johnson, victorieux de ses dernières élections et de ce vote de principe, entend bien honorer cette échéance du 31 janvier. Et pour cela, il doit faire adopter de manière officielle et définitive ce fameux accord de sortie par la Chambre des communes et celle des Lords. Alors ce vote aura lieu certainement dans les toutes premières semaines de janvier pour pouvoir faire voter ensuite le Parlement européen et que cet accord soit acté d'ici le 31 janvier.
Alors si j'ai tout bien compris, en février va s'ouvrir la très attendue phase des négociations sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On sait Marina à quel point les pays de l'Union européenne ont des législations qui sont très imbriquées. Qu'est-ce que ça signifie vraiment cette relation future entre les deux parties et qu'est-ce qu'ils vont négocier, le sait-on ?
Alors la première priorité sera de négocier un accord commercial avec l'UE. Le Royaume-Uni souhaite un accès aussi large que possible à l'UE pour ses biens et ses services, mais le gouvernement a déjà clairement indiqué que le Royaume-Uni doit quitter l'union douanière et le marché unique et mettre fin à la compétence générale de la Cour de justice européenne. Et comme on vient de le signaler, le temps presse. L'UE pourrait mettre des semaines à se mettre d'accord sur un mandat de négociation officiel. Cela signifie que les discussions formelles pourraient ne commencer qu'en mars. Si aucun accord commercial n'a été conclu et ratifié d'ici la fin de l'année, le Royaume-Uni devra alors faire face à la perspective de droits de douane très importants sur les imports-exports vers l'UE. Les législations du Royaume-Uni étant complètement alignées sur celles de l'UE, la négociation, en principe, devrait être assez simple. Mais les critiques ont souligné que le Royaume-Uni souhaite avoir la liberté de s'écarter des règles de l'UE afin de pouvoir conclure des accords avec d'autres pays, ce qui rendra donc les négociations un petit peu plus difficiles.
On l'entend bien, Boris Johnson va avoir du pain sur la planche en ce qui concerne les relations avec l'Union européenne. Mais en matière de politique intérieure, il y a aussi plusieurs points qui sont loin d'être réglés. On pense bien sûr à l'économie, l'Écosse, Marina, mais aussi à l'Irlande du Nord.
Et oui, bien que cela monopolise complètement l'agenda politique de ces trois dernières années, les problèmes ne s'arrêtent pas au Brexit et aux négociations. Et il faut donc s'attendre à voir de gros dossiers devenir assez problématiques, hein, notamment celui de l'Irlande du Nord, qui en janvier entrera dans sa quatrième année sans assemblée parlementaire. Il faut rappeler que la signature de l'accord du Vendredi Saint a permis aux partis politiques nationalistes et unionistes nord-irlandais de partager le pouvoir ensemble pour la première fois au sein d'un exécutif de coalition. Ce partage du pouvoir a contribué à mettre fin à plus de 30 ans de violence connue sous le nom des troubles. Or, depuis janvier 2017, les deux partis principaux, le DUP, le parti unioniste nord-irlandais, et le Sinn Féin, le parti républicain irlandais, n'ont pas réussi à former de coalition. Leurs idéologies sont très différentes, hein, les nationalistes étant favorables à l'unité avec la République d'Irlande, tandis que les unionistes, eux, veulent que l'Irlande du Nord reste une partie du Royaume-Uni. Alors autant dire que le Brexit n'a pas du tout arrangé ces divergences d'opinion, puisque l'Irlande du Nord a voté à 56% pour rester au sein de l'Union européenne en 2016. Mais selon les termes de l'accord de sortie de Boris Johnson, l'Irlande du Nord reste effectivement dans le marché unique de l'UE pour les produits manufacturés et continuera à appliquer les règles douanières de l'UE dans ses ports. Elle ne cessera de suivre ces règles que si une majorité simple des membres de l'Assemblée nord-irlandaise vote pour y mettre fin. Ce premier vote, selon l'accord de retrait, aurait lieu en 2024, mais il exige d'abord que les partis forment une coalition et évidemment reviennent au pouvoir.
Et toujours en Irlande, pour ce qui est de la frontière avec la République d'Irlande, on sait que c'est le point qui a posé quand même le plus de problèmes, ou du moins beaucoup de problèmes ces derniers mois.
Oui, Boris Johnson subit effectivement beaucoup de pression de la part du Parti démocrate unioniste. Il faut dire que personne en République d'Irlande ni en Irlande du Nord ne veut d'un retour d'une frontière physique entre les deux pays. Cela pourrait fortement mettre à mal les accords de paix négociés il n'y a pas si longtemps que cela. Ce que Boris Johnson prévoit, c'est de faire de l'Irlande du Nord une région semi-détachée du Royaume-Uni, qui ferait partie intégrante de la zone douanière du Royaume-Uni, mais toujours soumise aux règles douanières de l'UE. Et ça ne passe pas vraiment pour les Irlandais du Nord, qui voudraient voir des propositions d'arrangements douaniers plus concrets et qui n'ostraciseraient pas l'Irlande du Nord.
Ce dossier est donc loin d'être réglé. Marina, qu'en est-il de l'Écosse qui, elle aussi, a voté contre le Brexit ?
La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a été galvanisée par ces dernières élections où son parti a gagné 13 sièges supplémentaires, soit 48 des 59 sièges écossais. Et Nicola Sturgeon ne demande qu'une chose, le droit d'organiser un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Il faut rappeler que le référendum de 2014 a eu lieu avant le référendum sur le Brexit et que les Écossais avaient voté à 55,3% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais ils ont aussi voté à 62% pour rester au sein de l'UE. Donc d'après Nicola Sturgeon, les circonstances sont telles qu'un second référendum doit être organisé pour que l'Écosse puisse décider de devenir indépendante et européenne ou de rester britannique. Did you hear? There's a
natural order. On vient d'examiner avec Marina Daras et Tara Schlegel les enjeux intérieurs du Brexit et les nouvelles relations qui vont s'instaurer avec l'Europe. Mais Eric Schoell, en 2020, le Brexit ne sera sans doute pas le seul gros défi de l'Union européenne.
Ça sera en tout cas évidemment une des priorités, mais pas la seule, parce que pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et surtout pour la nouvelle Commission européenne, il va y avoir au moins trois autres grands chantiers. Un chantier chinois, puisqu'on a bien vu cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais au fond l'Union européenne doit aussi pouvoir répondre à la Chine et doit pouvoir trouver sa place entre les États-Unis et la Chine. Et il y a depuis maintenant plusieurs années en discussion un traité sur les investissements qui est un texte très important, et qui n'a toujours pas abouti. L'idée, c'est de le faire aboutir en 2020. Mais avec une Union européenne plus lucide et moins naïve peut-être à l'égard de Pékin. Le deuxième grand chantier, c'est l'environnement, bien sûr. Et ça, la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut en faire absolument sa priorité. Pour elle, ça ne doit pas être que des mots. Donc il y a derrière des vrais engagements. Or, on sait bien qu'il y a des fractures au sein de l'Union européenne, que des pays ne sont pas d'accord là-dessus, que certains pays comme la Pologne, comme la Tchéquie ou même comme la Hongrie sont beaucoup plus réticents à faire des nouvelles promesses, même à respecter les engagements qui ont été pris lors du traité de Paris. Donc ça va être pour la nouvelle commission un chantier très important, d'autant plus que il faut arriver quand même à la prochaine COP qui aura lieu à Glasgow avec un accord, avec un pacte vert. Ça doit passer par une loi climatique et ça va être dès le début de l'année 2020. Normalement, la Commission devrait présenter cette loi climatique d'ici le mois de mars. Donc ça va être immédiat. On va voir tout de suite, on va pouvoir juger du sérieux et de l'efficacité de cette Commission sur ce dossier de l'environnement. Et le troisième point, ça concerne moins la Commission mais plus le Parlement européen, au fond c'est la réflexion politique sur l'Europe. C'est quel cap donner à cette nouvelle Europe, une Europe qui sera bientôt sans le Royaume-Uni, et quel avenir pour l'Europe. Ça sera précisément la conférence qui va être lancée par le Parlement européen pour réfléchir à l'avenir de l'Europe et qui doit faire des propositions d'ici 2022. Donc c'est peut-être un énorme chantier, peut-être que ça n'accouchera pas grand-chose, mais on voit bien le déficit démocratique de cette Europe et qu'on a pu mesurer à l'aune des taux de participation, mais plus encore la montée des populistes un peu partout dans la plupart des pays d'Europe, des incompréhensions entre les pays d'Europe de l'Est et les pays, disons, les anciens pays de l'Union européenne. Et c'est tout ça où il faut trouver des réponses démocratiques. Ça va être l'enjeu de cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui va être menée largement par le Parlement européen.
Merci Éric Scholl d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de l'Express, co-auteur avec Gilles Fontaine du livre « Il est midi à Pékin ». Les enjeux internationaux de 2020, c'était le grand reportage de cette semaine avec Grégory Phillips à Washington, Dominique André à Pékin, Aurélien Colli à Beyrouth et Marina Daras à Londres. À la technique ce soir, Alex Dang. À la réalisation pour cette émission, Emmanuel Faucillon. Grand merci à tous. Bonne semaine.